Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Merci pour votre fidélité au matinal de Radio Classique. Nous sommes le 9 octobre, il est 7h31.
7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Bernard Poirette.
Et tout de suite le journal donc de 7h30 avec Augustin Lefebvre. Augustin, une marée très forte de nouveaux malades du Covid-19 arrive dans les hôpitaux et cliniques de l'Île-de-France. C'est la mise en garde de l'Agence régionale de santé.
Conséquence, le plan blanc renforcé a été réactivé ce jeudi. Dispositif d'exception qui permet de déprogrammer certaines opérations, qui permet également d'annuler les congés des soignants ou de les rappeler de vacances. Car la PHP manque toujours de bras, les étudiants sont appelés à la rescousse, 500 postes sont vacants. La situation ne s'est pas arrangée depuis la première vague, le personnel soignant est extrêmement fatigué. Alors il va falloir faire très attention, estime Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris.
Moi j'avais une infirmière qui a quitté mon service parce que, comme elle me disait, moi dans 2020 j'ai pris une semaine de vacances. Donc ça c'est du concret et effectivement il faut faire très attention et les cadres de santé sont là justement pour faire attention qu'on ne tire pas un peu plus sur le fil tendu par cette première vague sur ces personnels qui ont été lourdement sollicités. La politique de recrutement est juste pour remplir des postes qui sont vacants, donc c'est pas du tout du personnel en plus, notamment sur le personnel non médical, infirmière, aide-soignante, etc.
Le professeur Gilles Pialou répondait à Rémi Pfister.
Au-delà de Paris, la situation se dégrade assez vite dans presque tout le pays. Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, désormais, vont passer demain en zone d'alerte maximale.
Toulouse et Montpellier sont en sursis jusqu'à lundi matin. L'annonce a été faite hier en fin de journée par le ministre de la Santé, Olivier Véran. À ses côtés, son collègue de Bercy, Bruno Le Maire, il a présenté un élargissement du fonds de solidarité. 75 000 nouvelles entreprises sont concernées.
Et dans ce contexte, tout le monde cherche des solutions, bien sûr. Ce matin, allons dans le département de l'Allier. Le conseil départemental compte lancer une expérimentation qui permettrait aux bénéficiaires du RSA de ce département de revenir progressivement dans l'emploi.
Le département veut en effet proposer certains postes vacants dans les entreprises aux allocataires du revenu de solidarité active, dont le nombre a bondi pendant le confinement, du temps partiel qui permettrait de remettre un pied dans le monde du travail, mais tout en continuant de toucher l'aide, Émilie Vallès.
Tout part d'un constat, l'Allier compte un peu plus de 10 000 bénéficiaires du RSA et c'est presque autant que le nombre d'offres d'emploi non pourvues dans le département. D'où l'idée de ce dispositif imaginé par Annie Corne, vice-présidente du département en charge de l'emploi.
C'est quelque chose de bon sens. On permettrait sur une durée de 12 mois aux bénéficiaires du RSA de travailler 15 heures par semaine tout en conservant le bénéfice de leurs allocations, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque tout salaire est déduit de leurs allocations. C'est une incitation et puis en même temps, c'est la reprise dans le monde de l'entreprise, mais avec un petit taux horaire de façon à y rentrer progressivement.
Alors évidemment, cela ne peut pas fonctionner avec tous les métiers recherchés dans l'Allier. Certains demandent des compétences bien spécifiques comme soudeur ou plombier, mais cela est tout à fait possible dans l'hôtellerie-restauration ou l'aide à la personne, par exemple, explique Jean-Christophe Mallet, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises du département.
C'est des gens qui pourront être formés, peu importe s'ils ne sont pas diplômés. Ce qui est important, c'est la volonté de travailler, de s'intégrer dans un groupe. C'est en travaillant qu'on trouve du travail. Il y a des personnes qui ont eu un accident de vie et qui ne sont pas très loin du monde du travail.
Le département aimerait débuter cette expérimentation dès le début de l'année prochaine et attend le feu vert du Parlement.
Reportage d'Émilie Vallès pour Radio Classique. Je suis en pleine forme. Qui dit ça ? Eh bien, c'est Sophie Petronin qui l'a dit cette nuit. Le Mali a annoncé la libération de celle qui était la dernière otage française.
L'humanitaire de 75 ans était aux mains des djihadistes depuis 4 ans. À ses côtés, 3 autres otages ont été libérés. 2 Italiens et le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Cela intervient après la remise en liberté le week-end dernier de plusieurs dizaines de djihadistes par la junte qui a pris le pouvoir dans le pays cet été. Et la France va sans doute devoir payer au prix fort le retour de Sophie Petronin, estime Caroline Roussy. Elle est chercheuse à l'IRIS et docteur en histoire de l'Afrique contemporaine.
La junte qui est arrivée au pouvoir à la suite d'un coup d'État réussit là où le président malien a été tenu en échec, tout en sachant que l'opération Barkhane officie au Mali depuis 2014. Donc la situation dans laquelle la France se retrouve aujourd'hui, c'est que bon, on voit que Barkhane est sérieusement remise en question, des résultats tardent à s'imposer, et quand ils ont des résultats et qu'ils, finalement, ils essayent de suivre les conventions internationales et d'emprisonner des djihadistes, et bien ceux-ci deviennent des monnaies d'échange pour la libération. libération de deux otages. Donc la France, demain, va se retrouver contrainte de remercier la junte au pouvoir.
Propos recueillis par Rémi Vallès. Emmanuel Macron fait part de son immense soulagement. Le président accueillera l'ex-otage en France ce vendredi. Sophie Pétronin, qui a déjà fait part de son envie de retourner au Mali, voir comment se passe son programme de lutte contre la malnutrition des enfants.
Si nos prédécesseurs avaient réagi aussi fortement contre l'islamisme radical, nous n'en serions pas là. Déclaration du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, ce matin dans le Figaro.
Déclaration une semaine après le discours du président Macron sur les séparatismes. Un projet de loi doit être présenté au Parlement le 9 décembre. Parmi les pistes, le renforcement de la lutte contre la polygamie, l'interdiction des certificats de virginité ou la sauvegarde de l'héritage des femmes. Une mesure particulièrement défendue par Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. Elle sera votre invitée, Bernard, à 8h15. Elle souhaite créer un mécanisme de prélèvement automatique lorsque certaines femmes s'estiment lésées après le décès de leur père. Une idée légitime, mais qui existe déjà, estime maître Sophie Sabot-Barcet, vice-présidente de la Chambre des notaires.
C'est pas en remettant la réserve héréditaire qui existe déjà aujourd'hui qu'on pourra régler ce problème. C'est une institution, je le rappelle, très ancienne. Je comprends l'interrogation qui peut être faite aujourd'hui. C'est de pouvoir protéger dans certaines lois étrangères qui excluent les filles par rapport aux garçons. Donc il peut y avoir probablement dans certaines successions internationales ce genre de principe. Moi, je n'ai jamais eu affaire à ce type de succession. Je pense aussi qu'il faut faire attention parce que on ne fait pas une règle pour des cas qui sont encore aujourd'hui des exceptions.
Propos recueillis par Éric Cuoche.
Merci beaucoup. Ceci conclut le journal de 7h30 d'Augustin Lefebvre. Augustin reviendra à 8h30 exactement. Il est 7h37 sur Radio Classique. À suivre les spécialistes Bernard Sananès et Emmanuel Faux. Nous allons parler...